Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Poète, chanter, il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Vidocq ?
Vidocq ? Le forçat évadé ?
Un forçat ? Que je peux alors arrêter ?
Corrigez-vous, oh, bande d'imbéciles, par là, dépêchez-vous !
C'est ici le service de la sûreté, dirigé par Vidocq !
Alors c'est avec des charlatans, des faux aveugles et des acrobates que nous allons faire la police maintenant !
Ces lettres-là, il me les faut à n'importe quel prix, vous entendez ?
Mon collier disparaît, volé. Oh, si je comprends bien, vous voilà redevenu chef de la sûreté ?
Oui, madame. Pour vous servir tout de suite.
Et maintenant, tu vas t'expliquer.
Et ma derrière le dos. Deux autres coupables à vous présenter, monsieur Henri. Celui-ci, d'abord.
Vous êtes trop fort pour moi.
Eugène François Vidocq, vous avez été tour à tour voleur, corsaire, acrobate, escroc, bagnard, indicateur de police, chef de la sûreté, directeur d'une agence de détectives privés, homme de lettres et commerçant. Vos nombreux exploits ont inspiré la plupart des auteurs de romans noirs et de romans policiers, mais à la différence de leurs héros, vous avez bel et bien existé.
Et pas qu'un peu. Belle et longue vie d'aventure, riche en événements. Bien plus d'événements que dans beaucoup de romans picaresques. À tel point que je suis devenu plus célèbre que bien des personnages inventés.
Bon, j'en conviens. Vous êtes né à Arras en 1775.
Un an après l'avènement de Louis XVI. J'avais 14 ans le jour, ils ont pris la Bastille. L'âge idéal pour connaître la gloire par les armes.
Bon, je veux bien, mais à 14 ans, vous faisiez vos premières armes en volant dans la caisse de votre père qui était boulanger.
Et ce n'était pas si facile. Le tiroir était fermé à clé. Au début, je me compliquais les choses. J'enfonçais une plume de corbeau enduite de colle dans la fente qui servait à mettre les sous. Résultat, je ne récupérais que des petites pièces, menu butin. Savez-vous alors ce que j'ai fait ?
Je vous écoute.
C'est simple. J'ai fait fabriquer une fausse clé. Depuis ce jour, j'ai toujours conservé le sens pratique. À vrai dire, je ne suis pas mécontent que mon père ait pu me prendre sur le fait. Il m'a flanqué une raclée et il m'a mis à la porte. Libre. J'étais libre.
Et vous êtes aussitôt devenu voleur professionnel.
J'ai aussi été soldat. Des deux côtés, c'est vrai. Mais à Valmy, Kellerman m'a nommé caporal. Caporal, à 16 ans. J'ai aussi combattu à Jemmap. J'aurais pu être un Kléber ou un Murat si des histoires de femmes... Oh, des duels. Enfin, j'ai déserté. J'ai rejoint les bandes de pillards qui terrorisaient la région, les chauffeurs du Nord. Je me faisais appeler Rousseau. Cette époque était bonne pour la rapine, avec toute cette confusion liée à la Révolution. Surtout sous la Terreur. C'était vraiment rentable d'être voleur en ce temps-là.
Vous n'agissiez qu'en bande ?
Non. J'aimais faire cavalier seul. Très vite, j'ai acquis de l'expérience et en faisant du théâtre, j'ai appris à me déguiser et à me maquiller. Très utile, ces camouflages pour changer d'identité. Le plus efficace, c'est de se mettre en femme. On passe partout.
Cet art de se travestir vous sera utile également plus tard, dans la police.
Je me suis toujours déguisé. Quand une méthode est bonne, on la garde, que l'on soit chasseur ou chassé. D'ailleurs, j'ai été aussi acrobate, corsaire, ouvrier. Quoi que j'ai fait alors, cela m'est fut utile quand je suis devenu policier. Et même le bagne.
On vous a envoyé à celui de Brest et à celui de Toulon, et vous vous êtes évadé plusieurs fois.
Et l'on me reprenait le bagne. C'était alors pire que la mort. On en sortait plus dur et plus mauvais que lorsqu'on y était entré. J'ai vu de pauvres gars qui étaient au bagne pour avoir volé un pain. Et quand ils s'évadaient, ils étaient devenus des meurtriers.
Avez-vous été un assassin?
Moi?
Oui, vous, Vidocq.
On l'a dit, mais c'est faux. D'accord, j'aurais pu le devenir. Ma chance a été de changer de vie. Et pour un forçat en rupture de ban, la seule manière de changer de vie, c'est de collaborer avec la police.
Alors là, comment ont réagi vos compagnons de bagne?
Oh, j'étais Vidocq le Mouchard, Vidocq Judas. Moi, je n'en souffrais pas. Tout ce qui comptait à mes yeux, c'était de passer la ligne. Difficile. On se méfie autant des mouchards dans la police que dans la pègre. Celui qui m'a sauvé, c'est Fouché. Il estimait que les voyous repentis étaient les seuls capables de pourchasser les criminels. Il n'avait pas tort. Je devins un grand policier.
Oui, l'une de vos méthodes favorites était de vous infiltrer dans une bande pour en forcer les membres à commettre un délit. Cela tient de la provocation.
Dites, ce sont des malfaiteurs. Je les connais mieux que vous. Tôt ou tard, ils auraient mal agi. Moi, je rendais service à la société en les poussant au crime et en les arrêtant ensuite. Ce qui compte, c'est le résultat. La police d'alors ne savait rien de la pègre. Moi, ancien bandit, je connaissais le langage des forçats et les 100 manières de cambrioler et de rançonner. Normal. Ma documentation était de première main.
Et jamais d'état d'âme.
Jamais. Extrait des mémoires de Vidocq. Je commençais à me dégoûter des évasions et de l'espèce de liberté qu'elles procurent. Je ne me souciais pas de retourner au bagne. Mais, à tout prendre, je préférais encore le séjour de Toulon à celui de Paris, s'il m'eût fallu continuer à recevoir la loi d'être semblable aux chevaliers, aux blondis, aux Duluc, aux Saint-Germain. J'étais dans ces dispositions, au milieu de bon nombre de ces piliers de galères, que je n'avais eu que trop bien l'occasion de connaître, lorsque plusieurs d'entre eux me proposèrent de les aider à tenter une fugue par la cour des bons pauvres. Autrefois, le projet m'eût souri. Je ne le rejetais pas, mais j'en fis la critique à un homme qui a étudié les localités et de manière à me conserver cette prépondérance que me valaient mes succès réels et ceux que l'on m'attribuait. Je pourrais dire aussi ceux que je m'attribuais moi-même. Car dès qu'on vit avec des coquins, il y a toujours avantage à passer pour le plus scélérat et le plus adroit. Telle était aussi ma réputation, très bien établie. Partout où l'on comptait 4 condamnés, il y en avait au moins 3 qui avaient entendu parler de moi. Pas de fête extraordinaire depuis qu'il existait des galériens qu'on ne rattachât à mon nom. J'étais le général à qui l'on fait l'honneur de toutes les actions des soldats. On ne citait pas les places que j'avais emportées d'assaut, mais il n'y avait pas de geôlier dont je ne pusse tromper la vigilance, pas de fer que je ne vinsse à bout de rompre, pas de muraille que je ne réussisse à percer. Je n'étais pas moins renommé par mon courage et mon habileté. Et l'on avait l'opinion que j'étais capable de me dévouer en cas de besoin. À Brest, à Toulon, à Rochefort, à Anvers, partout, enfin, j'étais considéré parmi les voleurs comme le plus rusé et le plus intrépide. Les plus malins briguaient mon amitié parce qu'ils pensaient qu'il y avait encore quelque chose à apprendre avec moi. Et les plus novices recueillaient mes paroles comme des instructions dont ils pourraient faire leur profit. À Bicêtre, j'avais véritablement une cour. On se pressait autour de ma personne, on m'entourait. C'étaient des prévenants, des égards, dont on se ferait difficilement une idée. Mais maintenant, toute cette gloire des prisons m'était odieuse. Plus je lisais dans l'âme des malfaiteurs, plus ils se mettaient à découvert devant moi. Plus je me sentais porté à plaindre la société de nourrir dans son sein une engeance pareille. Je n'éprouvais plus ce sentiment de la communauté du malheur qui m'avait autrefois inspiré. De cruelles expériences et la maturité de l'âge m'avait révélé le besoin de me distinguer de ce peuple de brigands dont je méprisais les secours et l'abominable langage. Décidé, quoi qu'il en pût advenir, à prendre parti contre eux dans l'intérêt des honnêtes gens, j'écrivis à Monsieur Henri, chef de la 2e division de la préfecture de police, pour lui offrir mes services sans autre condition que de ne pas être reconduite au bagne, me résignant à finir mon temps dans quelque prison que ce fût.
Oui, Vidocq, c'est pas un personnage de fiction, et en même temps, c'est pratiquement la matrice de toute une lignée de personnages de fiction. Donc, il y a tout un tas d'auteurs qui vont s'inspirer de la vie de ce personnage, qui fondent un petit peu l'image du double dans le roman policier. C'est-à-dire un personnage qui est passé par le mal, et qui se met, soi-disant, au service du bien. Moi, il me fait penser à une formule moderne qui est le vrai-faux policier. Le vrai-faux passeport, là, c'est le vrai-faux policier. Donc, c'est quelqu'un qui va un petit peut détourner sa fonction quand il sera chef de la sûreté pour, en fin de compte, faire du chantage et essayer d'asseoir sa propre statue. Donc il y a ça qui m'intéresse vraiment chez Vidocq. Et j'arrive pas à séparer ce personnage-là de choses modernes qu'il y a chez Vidocq, c'est-à-dire qu'il écrit ses mémoires. Donc ses mémoires font autorité, et ça a été écrit par des nègres. Donc on sait qu'il y a ces éléments-là aussi, c'est-à-dire que dès le départ, ce personnage n'arrête pas de truquer sa vie. Il a truqué la justice, il truque tout comme ça. Et c'est pour ça qu'il est fascinant pour les romanciers, pour vous.
Thank you.
Votre notoriété repose moins sur vos exploits dans la police que dans la description de votre vie de voleur et de forçat dans vos mémoires, publiés en 1828. Mémoire un peu romancée.
Oh, quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. C'est d'ailleurs l'origine de tous les mythes. Peut-être que j'ai fait tout ce qui est écrit dans ces volumes. Peut-être pas. L'essentiel est que Vidocq est devenu le modèle, l'original.
Vous avez pourtant désavoué vos mémoires.
C'est que deux individus m'ont trahi dans cette affaire. L'héritier de l'un et Maurice Descombes ont rédigé mes mémoires dans un style déplorable. Si vous aviez lu mes livres, ce que j'ai écrit avec cette main-là, vous sauriez que je suis bien un meilleur styliste que ces deux journalistes.
Bon, moi j'ai lu Les Chauffeurs du Nord, mais en êtes-vous bien l'auteur véritable?
Prouvez le contraire, si vous le pouvez.
Bon, j'insiste pas, je reviens sur les mémoires. Succès immense. Pourtant, d'autres vies de bannière avaient déjà été publiées.
Ouais, en thème collé. Un mythomane qui se prenait pour un génie du crime. Un tout petit escroc dont on a romancé les délires en 1820. Un menteur.
Et Pierre Coignard?
Coignard? Un gaillard intéressant. À peine mon aîné. Forçat en rupture de banc, malin, ancien soldat, habile à se déguiser et à obtenir de vrais papiers en utilisant de fausses attestations.
Moi, je trouve qu'il vous ressemble énormément, ce Coignard.
À la différence près que je l'ai arrêté moi-même en 1827 et renvoyé définitivement au bagne. Ce fut facile. Un forçat m'a indiqué sa cachette. J'ai toujours utilisé des indicateurs. Mais il est vrai que Pierre Coignard était plus pittoresque que cet idiot dans Thème collé. Et l'époque aimait bien les brigands. Les régimes se succédaient trop vite. La police était d'abord une police politique, comme je vous l'ai déjà dit. C'est bon pour la canaille de telles situations. Mais aujourd'hui, qui se souvient de Collet ou de Coignard, à l'exception de spécialistes comme vous? Personne.
Jamais laissé enchaîner. Oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Ciel noir 3 jours sur 2. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, faut-il vraiment se laisser emprisonner? Thank you.
Non, j'ai lu ça vraiment comme je lis énormément de livres historiques. C'était vraiment le côté historique, voire un petit peu, sachant que c'était un personnage réel et ne sachant pas que ce qui était écrit était de la fiction, puisque ça avait été retravaillé par des pros de la plume à l'époque. Donc j'ai lu ça vraiment comme un éclairage sur cette époque, sur la manière pour un type d'accéder aux plus hautes sphères du pouvoir et de maquiller complètement son passé de bandit. Donc il y a ces choses-là, c'est la manière de se rendre honorable par le chemin littéraire. C'est-à-dire que Vidocq s'est pas senti honorable en accédant à chef de la sûreté, il savait qu'il faisait la même chose que quand il était bandit, mais il s'est rendu honorable par l'écriture. Et ça, la rédemption par l'écriture, c'est quelque chose d'assez fabuleux.